Philippe, métaphysique, Fribourg, le 2 novembre 82, suite.
Il y a encore une de place, hein, il y a encore une de place pour la rue de Lille. Bon, à propos du point de vue, du point de départ de la philosophie, quelles sont les différentes raisons pour lesquelles on ne peut commencer par l'expérience religieuse? Je vous ai dit que je l'expliquerai maintenant. C'est bien, ça, c'est très bien de devancer. L'incommunicabilité de cette expérience, point d'interrogation. Le fait de ne pas expérimenter directement la personne divine, point d'interrogation. Quelle est la raison la plus profonde qui distingue l'expérience religieuse de l'expérience philosophique? D'autre part, l'expérience mystique vécue par quelques hommes qui implique un lien direct avec l'être premier, n'est-elle pas plus pure que l'expérience philosophique, plus vraie, plus certaine? C'est ce que dit Bergson, vous savez. Bon, on va voir ces questions-là. Hein. C'est... Alors, je vous ai dit ce matin, en terminant, n'est-ce pas, que nous essayons de voir comment, si nous regardons les diverses expériences que nous avons, nous aboutissons à cette dimension de l'anthropologie. C'est assez intéressant, du reste, à voir cette dimension. Je crois que c'est très important et intéressant. Alors, vous voyez, si on est croyant, si on a la foi, c'est très intéressant de voir ça. Parce que les sept dons du Saint-Esprit s'enracinent sur les sept dimensions de l'homme. Et ça nous fait comprendre que la dimension de l'homme pleinement implique 7. Et que c'est quand l'homme est mutilé que ça fait 6. Le fameux chiffre de l'Apocalypse, 6, 6, 6. Ça, c'est pas de la philosophie, hein, c'est de la théologie. Mais on a le droit d'aller de temps en temps en arrière. Hein, vous voyez ? Changer de vitesse, quoi. Le tout, c'est de savoir. J'ai fait mon enquête philosophie, quels sont les différents points de départ de la philosophie. Je vois que c'est grand des points de départ de la philosophie, tout le monde qui réfléchit un peu, qui a une certaine expérience humaine peut le dire. Nous avons 7 grandes orientations humaines. La 7e étant un peu différente des autres, puisque de fait, elle est à partir de la découverte de l'être premier, et dès que je découvre que l'être premier existe, je peux préciser qu'il est le créateur, que je suis dépendant de lui, et que cette dépendance vis-à-vis de lui, je peux l'accepter amoureusement dans un acte d'adoration. Et donc j'établis à ce moment-là philosophiquement ce que c'est que l'homme religieux. Homo religiosus. L'homme religieux. Alors vous avez donc les 7 dimensions. Alors ces 7 dimensions sont, au point de vue philosophique, je dirais, on peut très facilement, dès qu'on est un tout petit peu éveillé au point de vue philosophique, de comprendre qu'en effet, vous pourriez vous demander s'il y en a d'autres. Hein. Demandez-vous, si vous avez, ça faut toujours se demander s'il y en a d'autres. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai secoué le problème dans tous les sens, croyez-le, et je ne vois qu'il y a 7 grandes dimensions de l'anthropologie humaine. Et ça me semble très intéressant pour une philosophie réaliste de voir que j'ai 7 grands aspects sur l'homme. L'homme dans sa complexité et dans son unité. Dans sa complexité et son unité me permettent de voir ce point de vue-là. Alors, la confirmation, comprenez bien, c'est une confirmation. La confirmation, si je suis croyant, si je suis chrétien, c'est de voir que l'homme pleinement épanoui par la grâce de Dieu, implique les 7 dons du Saint-Esprit. S'il y a sept dons du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait sept amorces sur l'homme. Ça ne peut pas être autrement. C'est là où c'est toujours très intéressant de passer de l'un à l'autre. Faites attention, il ne faut pas faire le raisonnement inverse. Il y a sept dons du Saint-Esprit, donc il doit y avoir sept dimensions dans l'homme. Ça, ce serait très très mauvais comme raisonnement. Il faut découvrir l'homme tel qu'il est, et en découvrant l'homme tel qu'il est, je découvre ses dimensions, et je me dis après, si je suis chrétien, je me dis tiens. Vous voyez, alors de cette manière-là, on aurait une anthropologie chrétienne qui serait extrêmement intéressante à découvrir à travers toutes les cultures. Alors, ce serait vraiment très intéressant voir comment dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, nous avons une anthropologie chrétienne. Vous voyez, ce n'est pas du tout âme et corps, ce serait cette dimension. Et ce serait beaucoup plus intéressant. Et là, je rejoindrais vraiment l'Écriture. Ça, il n'y a pas de danger. Vous voyez, quand on prend tout le temps l'anthropologie grecque n'est pas l'anthropologie chrétienne, j'ai entendu ça combien de fois dans ma vie. L'anthropologie chrétienne ne correspond pas du tout à l'anthropologie biblique. On dit ça encore. C'est vieux, vous savez, ça, c'est vieux. Ce sont des erreurs qu'on traîne. Eh bien, c'est très faux, on ne doit pas dire comme ça. Parce que la distinction de l'âme et du corps est une distinction de fait religieuse, qui existe dans toutes les religions. La distinction de l'âme et du corps, elle n'est pas propre du tout à la philosophie grecque. Elle est propre à l'âme. Donc, c'est pas par là que je distingue l'anthropologie. C'est en voyant les sept dimensions de l'homme que j'ai une véritable anthropologie. Et alors, en voyant les sept dimensions de l'homme, j'ai une véritable anthropologie. Tandis que la distinction de l'âme et du corps ne me donne pas du tout une anthropologie. C'est intéressant, c'est très capital, c'est très profond, mais c'est pas ça l'anthropologie, vous comprenez bien. L'anthropologie doit me montrer ma manière de me situer face au monde, face aux hommes, face à moi-même, face au transcendant, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est les sept orientations. Alors, je vous disais ce matin en terminant, comment le point de départ de la philosophie ne peut pas être l'expérience religieuse. Et c'est la question posée ici. On a raison, très bien, poser une question comme ça. L'expérience religieuse. Je dis l'expérience religieuse n'est pas un point de départ, mais une conclusion. Au plan philosophique, comprenez bien, je précise, au plan philosophique. Au plan philosophique, l'expérience religieuse n'est pas un point de départ. Je ne peux pas baser ma philosophie sur une expérience religieuse. Pourquoi ? Parce que l'expérience religieuse demeure avant tout une expérience interne. L'aspect de l'expérience externe est complètement dépassé. Vous ne touchez pas et vous n'atteignez pas Dieu en lui-même par l'expérience religieuse. L'expérience religieuse nous permet d'avoir un certain sentiment du sacré, un certain sentiment de l'absolu, un certain sentiment du tremendum, de ce qu'il y a de ce qui me dépasse complètement, de la transcendance. Mais c'est uniquement une expérience interne. Je n'ai pas dans l'expérience religieuse l'expérience externe, comme je l'ai dans le travail, comme je l'ai dans l'amour d'amitié, comme je l'ai dans la coopération, comme je l'ai dans l'expérience de ce qui est mu, comme je l'ai dans l'expérience du vivant. Ça reste moi-même. Mon expérience religieuse n'atteint pas directement Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas partir de cette expérience religieuse comme point de départ. Autrement, je fonderai toute ma philosophie sur une expérience interne. Or, l'expérience interne est incommunicable. Moi, j'ai ce sentiment religieux, mais vous pouvez très bien ne pas l'avoir. Je ne dis pas ça pour vous. Mais quelqu'un d'autre peut très bien ne pas l'avoir. Je serai en face de quelqu'un qui a des a priori dans l'ATI, dans la visidéologie athée, dis-moi, j'ai jamais eu dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ça. C'est-à-dire, je l'ai rencontré, je suis persuadé que vous l'avez rencontré aussi. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui m'ont dit, je n'ai jamais eu une expérience religieuse. Si vous prétendez en avoir Très bien, je respecte. Mais c'est comme quelqu'un qui n'a aucun sens artistique. Il y a des gens qui ont un sens artistique. Je crois que le sens artistique est beaucoup plus répandu que le sentiment religieux dans un monde comme le nôtre. C'est-à-dire dans un monde qui se matérialise, dans notre monde occidental, qui se matérialise. Je ne parle pas de l'Orient. Dans l'Orient, ce serait déjà beaucoup plus, on aurait l'expérience de tête. Mais alors, ce serait quelque chose de, comme un sentiment religieux. Du reste, on le dit bien, on dit un sentiment. On parle de sentiment religieux. Et quand vous parlez de sentiment religieux, vous voulez insister sur l'expérience interne. Alors, cette expérience interne s'appuie sur le fait que je suis dépendant d'un absolu. J'ai le sens de ma dépendance, mais je n'atteins pas directement l'absolu. De sorte que je ne peux pas fonder ma philosophie sur l'expérience religieuse. Et ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Hein. C'est très très important. Si je fonde ma philosophie sur le sentiment religieux, j'aboutirai fatalement à un ontologisme. Ça, c'est la grosse perte. Hein. Il faut comprendre ce que c'est. Hein. Ce n'est pas l'ontologie, hein, faites attention. L'ontologisme, c'est une tendance philosophique assez particulière. En France, le représentant de l'ontologisme numéro 1, c'est Malebranche. Il était curé. Donc c'était le représentant de l'ontologisme magistral. C'est qui dit que l'homme se définit par Dieu. Le fini se définit par l'infini. C'est beaucoup de chance, ces gens-là. Ils connaissent l'infini avant de saisir le fini. Moi, je connais d'abord les limites, mes déterminations et mes limites avant de connaître l'infini. Est-ce que vous avez une idée d'infini? Non. Tandis que pour eux, il y a une espèce de vision d'infini qui me permet de connaître le fini. Je connais l'homme dans l'ontologie. Je connais Dieu, l'homme par Dieu. C'est Dieu qui me fait connaître l'homme. Voilà l'ontologie, d'une façon générale, hein, ce qu'on appelle l'ontologie. L'ontologisme, malgré, déjà chez Descartes, il y a l'ontologisme. Bon, à partir de Descartes, on dira même de temps en temps, mais il ne faut pas exagérer, le grand-père de l'ontologisme, hein, voilà, c'est le grand-père de l'ontologisme. On pourrait dire que c'est Platon. On peut dire que c'est Platon. On peut dire que c'est, d'une certaine manière c'est Platon. Et puis que c'est aussi l'épreuve de l'existence de Dieu de Saint Anselme. C'est le premier ontologiste, c'est le grand-père. Il n'est pas explicitement. Tandis que Malebranche l'est, Descartes l'est, c'est l'ontologisme. Or, l'anti-ontologisme, ce sont les idéologies athées contemporaines. Ça, c'est un point de vue qui est très intéressant, on n'aura pas le temps de le développer, mais qui serait très intéressant à développer. C'est que l'ontologisme, vous voyez, définit l'homme par Dieu. On veut libérer l'homme de ce carquois, de cette dépendance à l'égard de Dieu, et donc on dit, il faut d'abord affirmer que Dieu n'existe pas. Si j'affirme que Dieu n'existe pas, je libère l'homme. C'est pour ça que les athéistes contemporains, les idéologies athées, sont toutes des anti-ontologismes. C'est ça qui est très curieux. C'est des anti-ontologismes. C'est des positions en opposition vis-à-vis de l'ontologisme. Or, comme toutes les positions anti sont dans le même genre, il y a quelque chose de commun entre l'ontologisme et l'anti-ontologisme. C'est pour ça que vous retrouvez dans les idéologies athées, vous retrouvez l'ontologisme. Et l'ontologisme, c'est encore une idéologie. Je fais ça rapidement, mais c'est intéressant à voir que si je bâtis ma philosophie sur l'expérience religieuse, j'aboutis à l'ontologisme, mais en aboutissant à l'ontologisme, je forme le lit de l'athéisme. Le lit de l'athéisme, c'est l'ontologie. Ça, c'est très net historiquement et c'est très intéressant à noter. C'est très intéressant à noter de voir que, de fait, les idéologies athées d'aujourd'hui sont des positions antithétiques, donc dialectiquement opposées à l'ontologisme. Et l'ontologisme, lui, va naître de cette position de l'expérience interne, sentiment, j'ai le sentiment de la limite. J'ai le sentiment de la limite. J'ai le sentiment du sacré. J'ai le sentiment d'un absolu, qui peut être un surmoi, pour moi, qui m'écrase. J'ai quelque chose qui m'écrase. J'ai quelque chose qui me dévasse. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai ce sentiment-là. Et ce sentiment-là, là, je dirais, c'est le sentiment du sacré. Je ne peux pas baser la philosophie là-dessus, parce que je peux rester dans une expérience religieuse valable. Quand ça repose sur des traditions religieuses qui elles-mêmes sont vraies. Les traditions religieuses me permettent de vivre une expérience religieuse. Mais les traditions religieuses, elles ne sont pas toujours très pures. Ça charrie des quantités de choses. Hein. Quand je parle de tradition religieuse, vous voyez bien ce que je prends tradition religieuse au sens très précis. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition religieuse? Une tradition religieuse, c'est l'homme qui cherche Dieu. C'est pas du tout la foi. C'est autre chose, la foi. La foi, ça vient d'en haut. Tandis que les traditions religieuses, ça vient d'en bas. C'est l'homme qui cherche Dieu. Alors, les traditions religieuses éclairent une expérience religieuse. Cette expérience religieuse, elle est valable dans la mesure où ces traditions religieuses sont valables. Si ces traditions religieuses sont fausses, l'expérience religieuse aura tout de suite une répercussion là-dessus. Et alors, ça se traduira très facilement dans des sentiments affectifs. Qui n'ont rien à voir avec la religiosité. C'est très curieux, c'est des décadences, des chutes de traditions religieuses, des sentiments religieux. J'ai le sentiment d'être en état de grâce aujourd'hui. J'ai le sentiment, parce qu'il faisait, il y avait du beau soleil, c'est pas ça. J'ai le sentiment d'être quelque chose, vous voyez, d'être bien avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est que la véritable expérience religieuse de l'adoration. L'expérience religieuse de l'adoration, alors telle que nous l'avons située septièmement ce matin, vous voyez, c'est de comprendre que je sais que je suis un être totalement dépendant de l'être de Dieu. Je reconnais cette dépendance et je l'aime. Je veux l'aimer. Et donc l'adoration est un acte volontaire et pas une question de sentiment affectif. Je veux adorer. Alors là, on voit comment la philosophie vient purifier les traditions religieuses. La philosophie ne peut pas purifier la foi, mais la philosophie peut purifier, la métaphysique peut purifier les traditions religieuses. Donc vous voyez, ça c'est très important, c'est dit rapidement, je suis d'accord. Alors ça peut poser des questions, mais c'est des questions extrêmement importantes. C'est une question extrêmement importante. Ne pas confondre la foi divine et les traditions religieuses. Comprendre que les traditions religieuses permettent, dans la mesure où elles sont authentiques, une véritable expérience religieuse interne, que cette expérience religieuse interne a sa valeur, mais elle n'implique pas d'expérience externe. Et c'est parce qu'elle n'implique pas d'expérience externe que la charge affective vient si fortement intensifier l'expérience interne. D'où sentiment affectif religieux, et ce sentiment affectif religieux ne me fait pas sortir de moi. Je reste en moi. Et donc je ne peux pas baser une philosophie sur cette expérience religieuse à partir de traditions religieuses. Parce que pour le philosophe, hein, pour le philosophe, comprenez bien, pour le philosophe, l'expérience, les traditions religieuses ne sont que des opinions. Pour le philosophe, en tant que philosophe, je les respecte, mais c'est une opinion.
La philosophie me donne des certitudes et me donne une vérité qui va plus loin que les traditions religieuses. C'est là la différence par rapport à la foi. La foi transcende la philosophie. Et donc la philosophie ne va pas venir purifier la foi, mais elle vient purifier les traditions religieuses. Et alors là, il y a trois domaines qui sont très très importants à signaler pour nous, voyez, surtout si nous sommes croyants, ou si nous sommes auprès de croyants. C'est de bien distinguer le domaine de la foi, le domaine des traditions religieuses, et le domaine de la philosophie première. Philosophie première, dite métaphysique, c'est comme ça qu'on la nomme, qui s'achève en une théologie qu'on dit théologie naturelle. On distingue la théologie naturelle de la théologie qui est à base de la foi. Alors, il faut bien distinguer ces trois domaines, ces trois niveaux différents. Trois niveaux différents. Et nous devons arriver à discerner bien ces trois niveaux différents. Nous pouvons le discerner assez facilement. Nous sommes un peu lucides, si nous avons fait un peu de philosophie. Nous arrivons à discerner assez facilement. Le domaine de la foi est d'ordre surnaturel. Donc la foi est un don. C'est un don gratuit. Je sais que tous les hommes ne l'ont pas. C'est un don qui est donné par Dieu. Les domaines des traditions religieuses, c'est proprement l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui réalisent ces traditions religieuses. Ces traditions religieuses ont peut-être une source lointaine, qui est révélation. Je dis peut-être la parole de la première épître de Saint Jean. Le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. Donc on peut dire que les traditions religieuses peuvent avoir une source lointaine qu'est la révélation. Mais les traditions religieuses, comme telles, sont portées par les hommes. Les traditions religieuses impliquent une liturgie, impliquent des rites d'initiation, des tas de choses, hein, les traditions religieuses. C'est très très mêlé. Les traditions religieuses. Il y a une tradition religieuse chrétienne qui n'est pas la foi chrétienne. Vous voyez, les traditionnalistes, hein, comme on dit, hein, les traditionnalistes, hein, c'est ceux qui impliquent, qui mettent plus l'accent sur la tradition que sur la foi. Les traditions religieuses sont des conséquences de la foi. Le chrétien, c'est celui qui vit de la foi. Mais le chrétien peut être un traditionnaliste. Ou le chrétien peut être un progressiste. C'est les deux opposés. Anti-traditionaliste, progressiste. Anti-ontologisme et ontologisme. Vous voyez, c'est les deux qui se regardent comme un chien et un chat. Ça dépend pour qui le chien et pour qui le chat. Mais alors, c'est les traditions religieuses, ça. C'est les conséquences de la foi, les retombées de la foi, les retombées de radioactivité. De la foi. Là, c'est les traditions religieuses. Les traditions religieuses, c'est toujours dans le cœur de l'homme, c'est porté dans le cœur de l'homme. C'est très bon, c'est pas mauvais du tout, mais ça demande d'être purifié constamment. Parce que la tradition religieuse a un poids affectif, un poids de sentiment affectif qui fait que c'est si facilement lourd. Et puis alors, vous avez la philosophie, et au sommet de la philosophie première, qui est la métaphysique, qui aboutit à une théologie naturelle. La théologie naturelle vient purifier les traditions religieuses et la théologie naturelle ne pénètre pas dans la foi, elle s'arrête. Ça, il faut que ce soit à peu près clair. C'est des choses qui sont très importantes que nous portons tout en nous. Il faut que nous les ayons un peu clarifiées. Hein. Et toute la philosophie nous aide à les clarifier, ça c'est sûr. Ça nous aide à les clarifier. Ça nous aide à clarifier, parce que c'est important de bien saisir ça. Bon, je passe à l'autre question. D'autre part, l'expérience mystique vécue par quelques hommes qui implique un lien directe vers l'être premier n'est-elle pas plus pure que l'expérience philosophique, plus vraie, plus certaine? Ah, alors l'expérience mystique, quelle différence y a-t-il entre l'expérience religieuse et l'expérience mystique? Vous allez dire que l'expérience mystique, c'est un degré supplémentaire d'intériorité. L'expérience religieuse, l'expérience mystique, qui dit expérience mystique? Vous voyez, prenez par exemple au plan philosophique, hein, la grande expérience mystique au plan philosophique, c'est Plotin. Plotin, c'est vraiment le philosophe de l'expérience mystique. Ça, c'est très bien. Il dit qu'au-delà de la contemplation, il y a l'union, énosis. Il y a l'union. Je m'unis profondément avec l'être premier, avec l'âme. Et à ce moment-là, c'est le silence. Tous les mystiques diront que l'expérience mystique, c'est le silence. Dans l'expérience religieuse, s'incarne à travers une liturgie. Vous voyez, c'est la différence. Tandis que l'expérience mystique, c'est au plus intime de moi-même, où je suis uni avec l'absolu. Et je vis de cet absolu. Cette expérience religieuse porte en elle-même sa propre lumière. Hein, comme expérience mystique. L'expérience mystique est-elle une expérience intellectuelle à l'égard de Dieu? Non. C'est une expérience affective. Cette expérience affective peut provenir ou de la foi. J'aurai l'expérience mystique chrétienne. J'aurai l'expérience mystique musulmane. J'aurai l'expérience mystique juive. Trois grandes fois. En six fois, dans le sens justement, où ça me met en contact avec une révélation. Je peux parler d'une expérience mystique provenant de traditions religieuses, ça existe. Il y a des expériences mystiques dans l'Inde. Et ce n'est pas uniquement une expérience religieuse. Alors, cette expérience mystique, c'est au carré, comprenez bien, au carré, l'intériorité affective religieuse. Mais c'est exactement la même chose. L'expérience mystique ne me donne pas un contact direct avec Dieu. Elle me donne un contact direct de ma dépendance à l'égard de Dieu, de l'emprise avec Dieu. C'est ce lien affectif avec quelqu'un qui me dépasse que j'expérimente en premier lieu. Donc je ne peux pas commencer ma philosophie par une expérience mystique. Et en plus, cette expérience mystique, elle n'est pas communicable. Quand vous dites, j'ai eu une expérience mystique ce matin, toute ma philosophie est changée. Non. Elle n'est pas communicable. Ça ne veut pas dire, quand je dis qu'elle n'est pas le point de départ, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas très intéressante. L'expérience mystique, comme l'expérience religieuse, va pouvoir souvent me donner un sens beaucoup plus profond de l'intériorité de l'esprit. Et donc, me donner un sens très profond de ce que c'est que l'âme spirituelle. Il est évident que c'est l'homme religieux ou l'homme mystique qui a le plus le sens de l'âme spirituelle. Mais c'est l'expérience de l'âme spirituelle. Donc, c'est au niveau de la vie. Ce n'est pas du tout au niveau d'une expérience à l'égard de Dieu. Vous voyez ? Bon, vous pouvez réfléchir là-dessus. Hein. Si vous avez des difficultés, vous les direz. Parce qu'il faut essayer sur ce domaine-là, voire très fort. Vous voyez, quand je prends Bergson, lui, vous savez bien, dans les deux sources, parle de l'expérience mystique comme un argument pour montrer l'existence de Dieu. Donc il ne le prend pas du tout comme un point de départ d'une philosophie, mais comme un argument, comme un signe qui permet d'affirmer l'existence de Dieu. Voilà des hommes sensés, qui font des choses intéressantes dans leur vie, qui ont l'air d'être plus concrets, plus réalistes que les autres. Or, ils prétendent avoir une expérience très intime avec Dieu.
Donc je ne peux pas dire que cette expérience très intime qu'ils ont avec Dieu est purement imaginative. Puisque je vois qu'ils réalisent des choses concrètes qui montrent tout leur réalisme. Je dois donc croire à l'affirmation biblique et ceci me permet d'affirmer l'existence de Dieu. Mais vous voyez que ce n'est pas une vraie preuve philosophique, c'est une preuve par mode d'opinion. J'ai un ami très très fort que j'aime beaucoup, qui lui est très croyant. Moi je ne le suis pas. Bon, le témoignage de mon ami me sert et m'aide. Vous voyez, c'était le cas par exemple de Rostand en France, le savant Rostand. Rostand avait une épouse qu'il aimait beaucoup et qui était profondément chrétienne. Et je suis persuadé que ça a joué beaucoup dans sa vie. Parce qu'il aimait son épouse, et son épouse, elle, étant profondément chrétienne, l'obligeait constamment de revenir sur le problème de ce que représente le problème de l'existence de Dieu. Et c'est pour ça que Rostand pouvait dire, c'est chez moi, le dimanche, qu'on parle le plus de Dieu. Plus que dans les prônes des curés. Il disait ça avec beaucoup de conviction, et c'était vrai. Parce que chez lui, il réunissait constamment des amis et la discussion venait toujours sur le problème de Dieu. Parce que la présence de son épouse auprès de lui, lui donnait comme un témoignage vivant. Les mystiques sont un témoignage de l'existence de Dieu. Quand les mystiques ont les deux pieds sur terre. Vous voyez, parce que quand ce sont des uberlus, alors à ce moment-là, on dit, oh, ce sont des fous, c'est très, très bien, c'est un genre de folie, c'est une drogue comme une autre. Mais quand ces mystiques sont des gens qui réalisent quelque chose et qui font quelque chose, alors à ce moment-là, le témoignage vaut quelque chose. Oui, oui, dites.
Alors si c'est pas communicable, est-ce qu'il faut croire que ce sont des ermites?
C'est pas communicable, c'est des ermites intérieurs. Oui, le contenu de l'expérience mystique comme telle n'est pas communicable. C'est pas parce que vous lisez dans Plotin qu'il dit qu'au-delà de la contemplation, il y a l'union avec l'un qui vous fait entrer dans le silence que vous entrez dans le silence. Vous pouvez lire. Ça vous invite, témoignage. C'est pour ça que je dis témoignage, mais pas communication du contenu. Ils sont des témoins. Les témoins, ça veut des poteaux indicateurs. Allez dans ce sens-là, vous trouverez quelque chose. Cul-de-sac. Vous ne trouverez rien. Mais allez dans ce sens-là, vous trouverez quelque chose. Alors, ça vous oriente. Mais ça ne vous donne pas la communication. Tandis qu'au contraire, je peux, vis-à-vis de l'expérience externe, dire, venez toucher cette table. Vous sentirez ce qu'elle est. Venez toucher ce sol, il est brûlant. Vous voyez, cette expérience est communicable. Parce que ça fait toucher l'autre qui existe indépendamment de moi. Tandis que dans l'expérience interne, c'est vous-même qui êtes source de ça. Oui. Alors il peut y avoir une autre source, il peut y avoir une objectivité. L'expérience religieuse et l'expérience mystique ne sont pas purement subjectives, c'est bien évident. Mais je ne peux pas communiquer à l'extérieur le contenu objectif de cette expérience. Oui.
Et puisque l'expérience aussi religieuse comme telle n'est pas plus communicable, ce que vous disiez au début,
oui.
Alors pour celui qui n'a pas une foi très assurée, ou même qui n'en a pas du tout, et qui est positivement en route vers la foi, qui veut l'être, comment alors obtient-il cette foi?
Cette expérience religieuse?
Ouais.
Ah, faisons attention. Dans tout homme, il y a une capacité d'expérience religieuse. Tout homme est naturellement religieux. Donc le philosophe va pouvoir montrer que dans la mesure où on a découvert l'existence de Dieu, dans la mesure où on accepte les traditions religieuses qu'il existe un Dieu créateur, dans la mesure où l'on a la foi, eh bien nous sommes en disposition à vivre de l'adoration et donc d'avoir cette expérience religieuse. Vous voyez ? C'est naturel l'expérience religieuse, c'est pas surnaturel, c'est naturel. L'homme est naturellement un homme religieux, un animal religieux. Il est naturellement ça.
Donc ça fait partie des dimensions anthropologiques de l'homme. Vous voyez ? Mais le contenu de cette expérience n'est pas immédiatement communicable. Vous voyez ? C'est en sens ça que ça ne peut pas être un point de départ, mais c'est un terme. C'est un terme. Le terme de ma philosophie, c'est de montrer que l'homme est un homme religieux. Tandis que c'était au point de départ, je partirais de là, je dirais non. Alors je dois partir de cette expérience. Or, cette expérience est un terme, donc elle n'est pas communicable. Oui. Bon. Alors maintenant que j'ai rappelé ce point de vue-là, nous allons regarder, puisqu'il s'agit maintenant d'entrer dans le problème qui nous intéresse directement. J'ai voulu le situer dans tout l'ensemble, vous voyez, parce que c'est toujours important. Quand on fait de la métaphysique, on fait de la métaphysique au sein d'une certaine philosophie. Une philosophie qui n'est pas une idéologie, mais qui est une philosophie réaliste. Alors, vous comprenez que le premier problème qui se pose aujourd'hui, quand on dit un cours de métaphysique, faut voir la tête de beaucoup de philosophes quand on parle de métaphysique. Je ne parle que des philosophes. Hein. La tête de beaucoup de philosophes quand on parle de métaphysique. La métaphysique aujourd'hui est périmée. Hein. On vous a peut-être déjà dit ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et on se demande si, au fond, un professeur de métaphysique a encore lieu d'exister aujourd'hui. Est-ce que c'est utile d'enseigner la métaphysique aujourd'hui? Parce que c'est utile. C'est, dans des quantités d'endroits, ça ne s'enseigne plus. C'est périmé, la métaphysique. On voit très bien, quand il s'agit d'une succession de professeurs métaphysiques, vous voyez, on voit très bien ça. Je ne suis pas dans la commission, donc je ne révèle pas de secret. On enseigne l'histoire de la philosophie grecque et la métaphysique. Vous comprenez, je peux mettre l'accent sur le numéro 1. Je peux mettre l'accent sur le numéro 2. Je peux dire succession de la métaphysique ou succession de l'histoire de la philosophie grecque. C'est vrai que c'est pas commode d'enseigner les deux, je suis tout à fait d'accord. Moi je considère que ce qui est plus important, c'est la métaphysique. Je considère. Mon successeur, je ne sais pas ce rapide, je ne sais pas du tout s'il considérera que le plus important c'est la métaphysique ou la philosophie grecque. Vous voyez, la philosophie grecque, elle s'enseigne partout. À partout. En Sorbonne, très bonne. Dans toutes les universités, l'histoire de la philosophie grecque. La métaphysique, c'est autre chose. Alors, je soulève le problème avec vous, parce qu'il faut le comprendre. Est-ce que la métaphysique est périmée? Grand problème. Je prends, vous voyez, est-elle périmée? Est-elle terminée, quoi, vous voyez? Alors, je prends ici uniquement les questions de termes, parce que c'est important au point de vue des termes. On parle de philosophie première, Aristote. On parle de métaphysique, on pourrait dire méta-science. Ce terme, Aristote ne l'a jamais employé. C'est des bibliothécaires. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est les bibliothécaires qui ont le langage le plus réaliste, hein, on comprend très bien. Ils disent métaphysique tout simplement. Il y a d'abord tous les livres physiques, puis après on met les autres. Méta, ça vient après. Ça vient après. Donc, métaphysique, on ne sait pas comment le nommer. On aurait dû dire philosophie première. Mais on a dit métaphysique. Et le terme métaphysique est resté. Aujourd'hui, très peu de gens parlent de philosophie première. Un peu plus depuis Husserl. Mais au fond, on parle métaphysique. Et puis, on a appelé ontologie. On l'a appelé ontologie. Troisième expression. Donc, première philosophie. Deuxième, troisième. Je vous dirai tout à l'heure à quel date l'ontologie a commencé à apparaître comme mot.
Puis ensuite, on dit ontologie fondamentale. Ontologie fondamentale. Heidegger, le dernier. Heidegger dit ontologie fondamentale. C'est très curieux, vous voyez, cette succession de mots pour d'expression pour exprimer la même réalité. Ceci parce que c'est très difficile de saisir ce que c'est que la philosophie première. C'est pas commode. Alors c'est pour ça qu'il y a des mots différents. Aristote dit philosophie première. Pourquoi Aristote dit philosophie première? Aristote dira la philosophie première regarde le toan et homme. Donc le toan et homme traduisait ce qui est en tant qu'il est. Donc ce qui est le toan en tant qu'il est. Il ne faut pas, traduire l'étant en tant qu'étant. Ça, c'est une traduction très très mauvaise qui n'a rien à voir avec Aristote. C'est projeter Heidegger sur Aristote. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut dire ce qui est le toan en tant qu'il est. C'est ça la philosophie première. On dira ensuite métaphysique. La métaphysique. Saint Thomas parlera de métaphysique. Parce que de fait, c'est après Aristote, quelques années après, vous savez, quand tous les livres d'Aristote ont été enfouis, puis on les a été retrouvés, puis alors on les a classés, et on les a classés pour une bibliothèque, fichiers matériels. Alors après les livres de physique, après les livres de philosophie de la nature, vient la métaphysique, ce qui vient après. Alors on a dit méta, aujourd'hui on pourrait dire méta-science, méta-biologie, méta-science humaine, tout ce que vous voulez. Donc méta, ce qui vient après. Non, c'est ce qui est après. La science de l'après. Ça serait bien ça, de dire ça. La science de l'après. La science de ce qui est de l'éclatement, du dépassement de tout ce qui est au-delà. C'est la science de l'au-delà. Mais au-delà, hein, pas du tout dans le sens chrétien. Hein, mais la science de l'au-delà. De l'au-delà de l'immédiat. De l'au-delà de. Non. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est un bon sens, tout simplement. Il y a des sciences qui regardent immédiatement des réalités que je peux toucher, puis il y a quelque chose qui vient après, mystérieux, métaphysique. Alors, on ne le nomme pas en disant métaphysique, on ne précise pas l'objet. En philosophie première, on précise. C'est ce qu'il y a de premier du livre. Ontologie. Ah, ontologie, vous voyez, c'est le toan et homme. Alors, on a dit, parce que ontologie, c'est un mot grec, hein, ontologie. Alors, à la place de dire le toon éon, on a dit le toon, le onto, la raison de l'être. La, comme dit saint Thomas, la ratio emptis. En latin, ratio emptis, ontologie. On saisit la raison de l'être. On saisit le logos de l'étang. Ontos. On saisit la raison. La raison, c'est le logos. Le logos de ce qui est de l'étang. C'est ça l'ontologie. Donc, on a remis un nouveau mot pour remettre l'être. L'être avait disparu dans métaphysique, puisque dans la philosophie première, l'être est présent. Et dans métaphysique, l'être a disparu, alors on dira ontologie. Et dans ontologie fondamentale, on veut montrer le dépassement à l'égard de la métaphysique. Pour Heidegger, quand il parle de ontologie fondamentale, c'est penser, penser l'être. Penser l'être. Or, penser l'être, c'est le dépassement à l'égard de l'étang. À l'égard du logos de l'étang. L'ontologie fondamentale, c'est par rapport à l'ontologie tout court. Le dépassement du logos de l'étang, c'est l'ontologie fondamentale. au-delà des étangs, il y a l'être. Il faut penser l'être. C'est très curieux, uniquement ce petit chèvre, vous voyez, qui nous montre comment la même science, parce que pour Aristote c'est une science épistémée, c'est une sagesse, va s'exprimer au cours des âges de quatre manières différentes. Je m'arrête et puis on reprend après. Il vaut mieux quand même s'arrêter 10 minutes, un quart d'heure, parce que le prof, 2 heures de métaphysique, c'est long.
Mon père, s'il vous plaît, qui c'est qui parlait alors de l'étendue, du logo de l'étendue?
L'ontologie, on va regarder ça. Attendez, je vais vous donner l'ontologie, civilisation métaphysique. Oui, l'ontologie. Parce que c'est des choses historiques, j'aime mieux les avoir de façon précise. Je vais vous donner ça. Science de la science.